Bonsoir. Élection des députés nationaux. Où en est-on? Pourquoi ça traîne? Comment seront répartis les sièges? À quoi sert un député? Comment sera désigné le Premier ministre? Question auxquelles répondront nos trois invités de ce soir. Dieudonné Mirimo Moulongo, rapporteur de la Commission électorale indépendante. Jacques Njoli, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et à l'Université protestante du Congo, UPC. Charles Lukenga, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale et spécialiste en histoire politique du Congo. Quelques auditeurs ont déjà réagi. Didier de Kisangani dans la province orientale pense que si la CEI peut prendre un certain pourcentage de voix de chaque province et dégager une tendance, cela pourrait faire taire la rumeur. Calmons-nous, estime-t-il. Bafou de Bukavu au sud qui vous interroge. À quelle proportion tous les partis politiques présents au Parlement pourraient être représentés au gouvernement? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un Premier ministre et des ministres qui ne répondront qu'à leur chef de parti politique comme ce fut le cas avec les composantes? Tandis que M. Papi Moussampo de Kalemi au Katanga veut savoir d'où proviendra le Premier ministre et quels sont les critères à suivre pour le désigner.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Pourquoi ça traîne? En d'autres termes, pourquoi la CEI ne publie pas encore les résultats du vote des députés nationaux? C'est la première question de cette émission. Nous avons justement pour y répondre le rapporteur de la Commission électorale indépendante, Monsieur Dieudonné Mirimo, bonsoir.
Bonsoir.
On parle tout le temps des résultats de la présidentielle, mais qu'en est-il des députés nationaux?
Le dimanche 30 juillet, nous avons organisé des scrutins combinés, le premier tour de présidentiel avec les législatives nationales. Et nous avons indiqué que jusqu'au 4 septembre, nous allons rendre publics les résultats provisoires des élections législatives. Mais on les fera circonscription par circonscription. Donc pour le moment, on est en train de faire la compilation des différents plis, des bureaux de vote qui ont fonctionné dans les différentes circonscriptions. Et dès qu'ils vont terminer, nous allons annoncer les résultats provisoires des députés nationaux.
Voilà, ça sera d'abord des résultats provisoires des députés nationaux le 5 octobre, le 5 septembre si je vous comprends.
Jusqu'au 4 septembre.
Jusqu'au 4
septembre. Donc, au fur et à mesure qu'on termine dans une circonscription, on annonce les résultats, circonscription par circonscription.
Et pourquoi dans les circonscriptions seulement?
Non, mais le député est élu pour une circonscription. Parce que le système qui a été mis en place, c'est un système majoritaire pour les circonscriptions à un siège, et le système proportionnel avec liste ouverte et application de la règle du plus fort reste pour les circonscriptions à plus de 2 sièges. Donc, au fur et à mesure qu'il détermine la compilation d'une circonscription, on procède donc à l'attribution des sièges directement si c'est une circonscription, un siège, ou on procède au calcul pour la répartition des sièges pour les circonscriptions à plus de 2 sièges.
Voilà, on en arrivera, mais est-ce que vous voulez nous dire par là, M. Dieudonné Mirimo, que contrairement aux résultats de la présidentielle, donc les Congolais n'attendront pas les résultats de toute la République pour connaître leurs députés élus?
Effectivement, parce que la circonscription du député, c'est le territoire ou la ville. Donc aussitôt qu'on termine la compilation de la ville ou du territoire, on annonce les résultats provisoires de ce territoire ou de cette ville-là.
Et où seront finalement affichés ces résultats de députés nationaux? Ce sera toujours comme ça s'est fait lors de la présidentielle, c'est-à-dire...
On va les afficher au centre local de compilation des résultats, parce que les centres locaux, c'est entre 2 et 3 circonscriptions. On aura donc les résultats des 2 ou 3 circonscriptions au centre local de compilation des résultats.
Voilà, je me tourne maintenant vers le professeur Jacques Njoli. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et à l'Université protestante du Congo. Professeur, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'engouement des Congolais vis-à-vis des résultats de la présidentielle que ceux de la députation nationale. Est-ce qu'il y a une explication à cela?
Mais il y a l'explication... se dégage d'elle-même. Le choix du président de la République, c'est un choix qui engage toute la nation, le rôle, le statut, les mandats du président de la République a une importance vitale dans l'articulation du jeu institué par la Constitution et pour la vie de chacun de nous. Donc la personne qui va engager la République pour les 5 ans à venir, il est normal qu'il y ait cet engouement. Mais cela ne veut pas dire que les élections législatives ne sont pas importantes, puisque cette personne, au terme de l'architecture constitutionnelle, devra diriger le pays, non pas seul, mais avec un premier ministre qui viendra de la majorité qui se dégagera. Voilà pourquoi d'ailleurs la CI a organisé des élections combinées présidentielles, législatives, parce que les deux institutions constituent, n'est-ce pas, le deux pôles bicéphale, n'est-ce pas, de l'exécutif qui va conduire l'action vis-à-vis de la population pour les 5 années à venir.
Nous avons également dans ce studio M. Charles Lukenga. Bonsoir.
Bonsoir, M. Kianza.
Vous êtes chef des travaux à l'Université pédagogique nationale et spécialiste en histoire politique du Congo. Est-ce que dans l'histoire de notre pays, est-ce qu'on peut expliquer cette attitude des Congolais qui manifestent beaucoup plus d'engagement, vis-à-vis des résultats de la présidentielle que ceux des législatives?
Moi, je crois que tout est parti de la nostalgie. Vous voyez bien que notre pays a connu plus de 32 ans d'un régime où le président avait une prépondérance, où le président était tout puissant. Alors les gens croient que ce régime continuera. Parce que si vous remarquez même à la cité, il y a des ceci, il y a des bobards. Le président va nommer le premier ministre, il va nommer le ministre. Alors je crois qu'il y a aussi une part d'ignorance de la part de beaucoup de gens qui ne savent pas que le Parlement est très prépondérant dans ce régime ici. Alors on croit qu'il n'y a que le président qui décidera, comme dans l'ancien temps. Je crois que c'est un problème de vulgarisation de la loi, de la Constitution, qui n'a pas été tellement faite. Et beaucoup de gens ignorent cela.
Mais Monsieur Dieudonné Mirimo, je rappelle que vous êtes rapporteur de la commission électorale indépendante. Comme nous l'avions dit hier, il y a quand même une certaine impatience de beaucoup de Congolais qui attendent et les résultats de la présidentielle et les résultats de la députation nationale. Il y a par exemple Monsieur Didier de Kisangani dans la province orientale qui dit ceci, si la CEI peut prendre un certain pourcentage de voix de chaque province et dégager une tendance, cela pourrait faire taire la rumeur. Calmons-nous, estime-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez?
Heureusement, lui-même qu'il parle du calme, effectivement, nous invitons la population au calme et à la patience. Nous avons commencé à afficher les résultats partiels depuis hier et le rythme va s'accélérer pendant la semaine parce que les différents centres locaux de compilation des résultats sont en train de travailler d'arrache-pied. Et il faut dire aussi qu'on a commencé la compilation des présidentielles. Et plus tard, quand il termine, il commence les législatives. Raison pour laquelle donc les résultats des présidentielles seront annoncés peut-être avant. Mais comme la circonscription des députés, c'est le territoire, dès qu'il termine la compilation des présidentielles dans une circonscription, il commence la compilation des résultats pour les législatives. Il est donc possible, pendant que nous attendons l'ensemble des résultats de tous les centres locaux de compilation des résultats, qu'on commence déjà à annoncer les résultats provisoires des députés nationaux, circonscription par circonscription, comme je l'ai indiqué.
Mais pourquoi vous avez jugé bon de commencer d'abord par les résultats de la présidentielle au lieu des législatives?
Non, d'abord, la circonscription électorale pour le président de la République, c'est le territoire national. Par contre, pour les députés nationaux, c'est le territoire ou la ville, comme je l'ai indiqué. Et donc, si on devait commencer par les législatives, ça prendrait d'ailleurs plus de temps. Parce que là, comme le calendrier l'a indiqué, c'est jusqu'au 4 septembre jusqu'au 4 septembre pour annoncer les résultats des législatives. Mais pour les présidentielles, nous sommes donné le délai jusqu'au 20 août pour annoncer les résultats provisoires.
Comment seront répartis les sièges à l'Assemblée nationale? C'est notre deuxième question au cours de cette émission. L'Assemblée nationale qui sera élue sera composée de 500 députés. Ces derniers seront répartis sur 169 circonscriptions électorales que compte la RDC. Plus une circonscription aura un nombre important d'enrôlés, plus elle aura droit à un grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Comment seront répartis ces sièges entre les différents candidats à la députation nationale? Les explications avec notre confrère René Capita.
L'article 115 de la loi électorale fixe à 500 le nombre des sièges de l'Assemblée nationale. Plus une circonscription a des enrôlés, plus elle a droit à un nombre plus important de sièges. Pour les circonscriptions qui ont au moins 2 sièges, tel le cas de Bongandanga qui a 3 sièges, ou encore de Malimbankoulou qui en a 4, le partage des sièges se fait selon le scrutin proportionnel au plus fort reste. Au départ, on calcule le quotient électoral, c'est-à-dire la valeur d'un siège. Pour ce faire, on divise le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre des sièges auxquels la circonscription a droit. Ensuite, à chaque fois qu'une liste atteint le quotient électoral, elle a droit à un siège. S'il reste un siège après cette première répartition, il est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix restantes ou encore le plus fort reste. Pour les circonscriptions comme Sekebanza ou Bafoussende qui n'ont droit qu'à un seul siège, on applique le scrutin à majorité simple. Le siège est ici attribué au candidat qui obtient le plus grand nombre de voix aux élections.
Voilà, professeur, c'est un peu compliqué comme calcul. Est-ce que vous pouvez, professeur Njoli, est-ce que vous pouvez l'expliquer de façon simple à nos auditeurs?
Je vais le faire, mais je voudrais, avec votre autorisation, revenir un peu sur ce qui a été dit par le collègue de l'UPN. Il est un fait. Il n'y a pas d'ignorance au niveau de la population pour l'importance du chef de l'État. Si vous prenez cette constitution, sur le 220 articles, 24 articles concernent le président de la République. Le président de la République est le garant, il est la clé de voûte de cette institution. Il va de soi qu'il va diriger avec le Parlement, et c'est le Parlement qui va désigner le Premier ministre, donc ici, issu des majorités parlementaires, donc on arrive quand même à un équilibre. Ceci étant, revenons plutôt au choix du député. Je crois que votre collègue là aussi a été clair. Donc, chaque circonscription, territoire ou ville, comme a dit le rapporteur, constitue, n'est-ce pas, l'espace ou la circonscription ou la base ou le socle, n'est-ce pas, où sera ici un député. Le nombre de députés est désigné par le nombre de personnes appelées à voter, qui ont l'âge, c'est-à-dire ceux qui ont été enrôlés. N'est-ce pas, ce qu'on appelle ceux qui ont été inscrits sur le roll électoral. Alors, à partir de ces nombres, chaque au niveau de la CI, on a désigné pour la ville de Boyende, par exemple, le territoire de Boyende, il y a un député. Pour la ville de Mandaka.
Pourquoi un député pour Boyende, peut-être 2 ou 3 pour d'autres villes de la RDC?
Le calcul qui a été fait sur les 500 députés, il faut avoir au moins 50 000, à moins que je me trompe, 51 345.
Et pourquoi ce chiffre-là de 51 345?
Je crois que le rapporteur a mieux placé, mais nous avons 500 députés, on a 25 500, c'est à partir du nombre de désenrôlés. On l'a divisé, mais je crois que je peux laisser la question.
Exactement. Monsieur Mirimo, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi 2 députés ici et 3 de l'autre côté?
Nous avons pris donc l'ensemble des électeurs sur le territoire national, 25 712 552. Nous l'avons divisé par les 500 sièges à attribuer. L'Assemblée nationale sera composée de 500 députés. Et nous avons obtenu 51 345. Qui est le quotient électoral. Ensuite, maintenant, nous avons réparti les mêmes sièges au niveau de chaque province, au prorata des électeurs enrôlés dans la province.
C'est-à-dire,
au niveau d'une province, on a enrôlé 2 900 000, divisé par les 51 345, nous avons le nombre de sièges pour la province. Nous descendons au niveau du territoire, le nombre d'enrôlés par territoire, 150 000 par exemple, divisé par 51 345, ça donne à peu près 3 sièges. Donc, c'est les calculs qui ont été faits.
Mais si un territoire n'atteint pas le 51 345,
oui, pour avoir. Nous avons des territoires qui ont moins de 51 000, c'est le cas de Kamiji et autres, ils ont automatiquement droit à un siège. Automatiquement. Parce que la circonscription, c'est les territoires.
Oui, voilà, j'espère que nos auditeurs ont compris. Mais professeur Njoli, il y a M. Bakou à Bukavu, dans le sud Kivu, qui pose une question. À quelle proportion tous les partis politiques présents au Parlement pourraient être représentés au gouvernement?
Je crois que la question de la représentation des partis politiques au niveau du gouvernement ne peut pas être déterminée par la loi électorale ou par la Constitution. Ça découlera, n'est-ce pas, de résultats des élections et, n'est-ce pas, du jeu politique. Donc, si un parti politique qui a la majorité absolue de siège, c'est-à-dire la possibilité de former un gouvernement en tant qu'entité politique autonome, ben écoutez, il va former, ce parti politique va former un gouvernement, ça n'est pas des alliances, donc tout cela est tributaire des résultats des élections. Parce que aujourd'hui, à moins que le rapporteur nous dise, on ne sait pas encore la configuration du futur Parlement. Vous avez suivi en ce qui concerne les calculs, parce qu'il y a des candidats qui disent que moi je suis élu. Non, à moins qu'on soit dans un dans une constitution où il y a un seul député. Mais partout, les principes qui ont été, c'était un scrutin de liste. Il faut d'abord totaliser l'ensemble de voix ou des suffrages obtenus par une liste et ensuite appliquer les quotients électoral, c'est-à-dire les prix que vous devez payer pour avoir un siège, et lorsqu'il y a de reste, on va maintenant distribuer à chaque liste de manière en suivant l'ordre d'importance de ces restes-là. Donc, à ce jour, si je dois résumer ma réponse, on ne peut pas déterminer la couleur ou la configuration du futur gouvernement. Mais ce qui est dit dans le texte, c'est que le gouvernement doit être le plus représentatif possible. Est-ce qu'il s'agit d'une représentation géographique? Sûrement, mais en tout cas, au niveau politique, ce sera plutôt de la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République.
Monsieur Charles Lukenga, je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'Université pédagogique nationale. Il y a toujours Monsieur Bakou de Bukavu au Sud qui vous pose cette question. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un Premier ministre et deux ministres qui ne répondront qu'à leur chef de parti politique, comme ce fut le cas avec le composant? Par rapport à l'histoire politique de notre pays, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là?
Oui, notre auditeur peut avoir raison. Nous avons la crainte qu'il y ait normalement, si vous avez vu ce qui s'est passé en 60 entre le Premier ministre Lumumba et le Président Kazavubu, il y a eu un conflit au niveau du Parlement. Normalement, le Premier ministre ne devait pas être révoqué par le Président de la République, parce que c'est lui qui avait la majorité au Parlement. Concernant l'article, je crois que c'était l'article 22, le président avait révoqué le Premier ministre. Et le Parlement avait refusé. Malgré cela, la crise avait commencé. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de risques. Parce que s'il y a un Premier ministre qui n'est pas de l'obédience du Président de la République, qui a la majorité au Parlement, il y a beaucoup à faire attention.
Non, mais l'auditeur demande si, au cas où on a un Premier ministre et deux ministres de la même obédience politique, oui, qui ne répondent qu'à leur chef des partis politiques, est-ce que cela ne peut pas être un sujet de conflit? Comme certains observateurs ont dit que si les choses étaient un peu bloquées au niveau du Parlement de transition, c'était parce que les composantes et les entités recevaient les ordres de leur chef de composante. Est-ce que ça ne risque pas d'être le cas également?
Oui, il y a risque que ça continue. Il y a risque.
Voilà, il y a aussi risque que ça continue de quelle manière?
Dans le même sens que vous dites. Que les gens dépendent de leurs composantes.
Oui, professeur Njoli.
Non, je ne partage pas totalement cette approche, parce que le régime mis en place ici, ce n'est pas... effectivement, il y a des risques. Dans toute articulation constitutionnelle, il y a des risques. Mais le régime mis en place, c'est un régime semi-présidentiel. Et, il y a bien sûr les textes, mais il y a l'esprit. Et l'article 78 dit bien que les présidents de la République nomment le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Donc, c'est le peuple qui va envoyer les députés au Parlement. Et ces députés, dans leur majorité, vont, n'est-ce pas, c'est dans cette majorité que le président est obligé de choisir, n'est-ce pas, un Premier ministre.
Et il met fin à ses fonctions sur présentation pour celui-ci.
Oui. Professeur, là, vous nous dévancez parce que ce sera la quatrième question à laquelle nous allons répondre. Monsieur Dieudonné Mirimoya, des questions qui nous arrivent un peu tard, mais des questions qui sont adressées à la CEI. Il y a Monsieur Roger de Kinshasa qui vous demande pourquoi la CEI a commencé l'affichage de résultats par l'Est, n'est pas pour faciliter un candidat?
Bon, je crois qu'ils n'ont pas bien suivi. Nous avons affiché les résultats à Beni et à Goma, à Kalemi, à Mouchacha et à Kindu, à Songololo, à Mwanda et à Boma. Je crois que s'il prend sa carte, Songololo, Mwanda et Boma, c'est dans l'Ouest, dans le Bas-Congo.
Voilà. Concernant toujours la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, une question qui me semble dans ce sens-là vient de M. Eduardo de Kananga au Kasaï occidental, qui vous est adressé à vous, professeur Jacques Njoli. Il dit ceci, est-ce que le député qui a obtenu le plus de voix peut en céder le surplus à un autre candidat?
Oui, mais le scrutin n'est pas uninominal. C'est vrai que vous choisissez un homme, c'est l'avantage de ce qu'on a fait, le scrutin à liste à voix préférentielle, mais le voix profite d'abord à la liste. Et dans le choix de la liste, on prend la personne qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Donc, ces scrutins ont l'avantage d'un fois de permettre la cohérence des partis politiques sans pour autant effacer ou faire abstraction de la personne ou permettre une évasion, n'est-ce pas, de voix d'une personne au profit d'une liste ou d'une tête de liste. Je crois que c'est dans cet esprit que l'Assemblée nationale, sous pression d'ailleurs de l'opinion, a pu refuser les scrutins à liste bloqués pour prendre les listes ouvertes.
Voilà. À quoi sert un député ou quel est le rôle d'un député? C'est notre troisième question. Je reviens encore à vous, professeur Jacques Joly. Est-ce que de façon, excusez-moi le terme, terre à terre, pour permettre à nos auditeurs de comprendre, parce que durant la campagne électorale, on a assisté à des scènes où des députés promettaient monts et merveilles aux Congolais. Mais à quoi sert vraiment un député? Quel est son rôle?
Les députés pour premier rôle d'assurer la représentation du peuple. Il faut dire ici que cette représentation n'est pas territoriale. Cette représentation est nationale. Il a un mandat national. Et la Constitution, aussi bien la loi électorale, le répète. Donc, c'est vrai, vous avez élu un député à Mbandaka, mais il est un député national. C'est pourquoi on l'appelle député national. Il est vrai que dans le jeu politique, il va représenter, n'est-ce pas, d'une manière voulue ou non voulue, une population congolaise. Il a l'obligation de défendre l'intérêt, mais il faut intégrer ça dans la mission d'abord du Parlement. Le Parlement qui a le rôle d'abord de donner le moyen au Premier ministre, au gouvernement, le moyen politique, mais le moyen aussi budgétaire. Le Parlement va décider le budget et c'est très important parce que c'est à ce niveau-là où on va décider des objectifs du développement de notre pays. Et la plupart du temps, nous avons eu pendant le professeur d'histoire est là, nous avons eu des parlements qui servaient de chambres de résonance ou de chambres d'enregistrement, n'est-ce pas, d'un pouvoir d'un homme ou d'un groupe d'hommes.
Est-ce que vous êtes sûr que ça ne sera plus le cas? Est-ce que la culture politique congolaise a changé?
Non, il ne s'agit pas simplement de la culture politique congolaise. Il y a une évolution générale des institutions modernes. Il est un fait que le Parlement n'a plus le rôle éminent qu'ils avaient, n'est-ce pas, il y a 10, 15, 20 ans. Même les congrès américains, on doute parfois. La Chambre de députés en Grande-Bretagne, très souvent, ça sert de caisse de résonance au parti travailliste, au Premier ministre. Mais malgré tout cela, le Parlement, que ce soit le plus mauvais Parlement, sert, n'est-ce pas, de frein, de contrepoids, mais aussi de soutien, n'est-ce pas, au pouvoir. Il est un fait qu'il faut craindre. Mais le fait que ces parlementaires ne soit pas issu des composantes et qui devront rendre compte à la population après 5 ans, nous invite quand même à leur donner une chance pour la future démocratie congolaise. Mais la culture politique congolaise étant, ben, il faut toujours rester prudent.
Monsieur Charles Lukenga, vous êtes historien par rapport à l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu une certaine évolution entre le rôle que jouait le parlementaire du temps de vers les années 60 et le rôle qui lui sera dévolu après les élections?
Oui, si on applique à la lettre la Constitution, il y aura un changement.
Dans quel sens?
Dans le sens que dans cette constitution qui sera appliquée, les parlementaires joueront un rôle qui lui est dévolu. Tandis que dans les temps, c'est les présidents qui donnaient les injonctions aux parlementaires. Donc, le parlement n'était pas autonome, en quelque sorte.
Vous voulez parler du temps de Mobutu ou du temps
non,
de Kasavubu?
Non, et pas du temps de Kasavubu. Parce que le parlement de Kasavubu n'a même pas duré. Ça n'a même pas duré 3 ans. Hein? Vous voyez que le parlement est parti, après il y a eu la dictature. Après la dictature, c'était une chambre de résonance qui ne faisait que adopter ce qu'on a déjà décidé. Alors maintenant, ça ne sera plus l'État si on applique la Constitution. C'est là l'avantage de cette nouvelle législature.
Voilà, il y a aussi une question de M. Hilaire Kiayo de Lubumbashi au Katanga concernant toujours le rôle du député. Cette question est adressée à tout le monde ici. Il dit ceci, quelle est l'attitude normale que devra adopter un candidat à la députation durant cette période post-électorale? Serait-ce celle de se préparer à organiser une grande fête lorsque seront publiés les résultats des élections ou plutôt méditer et réfléchir sur ce qu'il fera pour aider les Congolais à rebâtir ce pauvre pays, la RDC toujours en perpétuel chantier? Ça, je le sais. Toujours vous, M. Charles Lukenga.
Oui, je crois qu'il a bien donné la réponse. Il faut qu'il médite, les députés, au lieu de faire la fête, parce qu'il doit servir, il doit travailler pour la nation et non pour se réjouir.
Et d'après vous, qu'est-ce que le député peut penser en termes de projet politique une fois qu'il sera élu?
Bon, s'il est élu, il avait fait des promesses à la population. S'il est élu, il doit concrétiser ce qu'il a promis. Donc, il doit commencer à travailler, à peaufiner des plans qui seront déposés au gouvernement ou au Parlement prochain.
Voilà. Je ne sais pas, professeur,
je voudrais d'abord dire que c'est vrai. L'activité politique ici dans notre pays, c'est toujours résolu à un problème de théâtre, mais il faut pas non plus désespérer. Moi, je crois que même le Parlement que nous avons eu, qui était nommé le Parlement qui vient de passer, on a vu qu'à un certain moment, il y a eu une dynamique parlementaire où ils se sont opposés à un certain nombre de choses. Et je crois que ceux qui ont suivi l'histoire de ces parlements ont vu que à la fin, la dynamique de composante a été plus ou moins perturbée et on ne savait plus qui était avec qui. Il y a eu de groupes importants de parlementaires, de composantes qui se sont plus déterminés par rapport à leurs composantes parce qu'il y a eu, n'est-ce pas, la dynamique politique. Ceci étant, dans la nouvelle constitution, c'est un régime semi-présidentiel. Ce qui veut dire que c'est un régime semi-parlementaire. Il est un fait qu'ils vont appartenir à une certaine majorité. Il est important qu'il y ait des cohérences politiques. C'est pourquoi on dit un député qui va quitter son groupe politique, eh ben, il perd son mandat parce qu'il a été élu sous le label d'un parti politique. Ça, c'est très bon pour assurer la discipline. Mais en même temps, la dynamique fait que l'article 146, par exemple, de la Constitution dit que le Premier ministre, après délibération du Conseil, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Ce programme sera débattu au sein du Parlement. Donc, les gens qui vont élire des charlots ou des gens parce que ils ont été chantés ou parce que mais ils vont s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils auront des députés qui seront de muets. L'activité parlementaire aujourd'hui est devenue très technique. L'adoption d'un budget, ce n'est plus une affaire. Il faut savoir n'est-ce pas, dans le plan d'investissement, mettre les intérêts de l'eau, de l'électricité de votre territoire.
Voilà. Monsieur Dieudonné Mirimo, concernant l'élection des députés nationaux, il y a une question qui vous est adressée par Monsieur Oscar de Lubumbashi au Katanga, qui émet, en fait, c'est une préoccupation. Il dit, la commission électorale indépendante n'a pas respecté l'article 16 de la loi électorale qui envisage le remplacement des candidats décédés. Qu'en dites-vous?
Pas du tout, parce que les candidats décédés, on les remplace avant qu'on ait publié la liste définitive. Parce que dès que la liste définitive est rendue publique, nous passons la commande des bulletins. Et dès que les bulletins sont commandés, comment on va remplacer un candidat? Parce que c'est lui qui est décédé qui va figurer sur le bulletin qui a été imprimé.
Est-ce qu'il est arrivé des cas comme ça où c'est un candidat décédé qui figure quand même sur...
Tout à fait, effectivement, nous avons quelques cas malheureux, mais on n'en pouvait rien. Parce qu'on a donné le temps pour que les différents partis politiques ou regroupements puissent signaler s'il y avait des décès pour qu'on les remplace avant qu'on puisse passer à l'impression des bulletins.
Vous voulez dire que la faute n'est pas à la CEI?
Ce n'est pas à la CEI.
Politique,
tout à fait. Nous avons 197 partis politiques qui ont présenté les candidatures. Et à chaque fois, ils viennent pour valider la maquette des bulletins avant que nous puissions donner le bon attirer à l'imprimeur.
Voilà. Comment sera désigné le Premier ministre? C'est notre quatrième et dernière question. Avant de répondre à cette question, je vous prie de suivre l'analyse faite à ce sujet. L'Assemblée nationale élue aura une tâche déterminante, la désignation du futur Premier ministre. Par ailleurs, les 500 députés qui sortiront des élections du 30 juillet auront aussi pour mission de voter des lois, contrôler les actions du gouvernement, des entreprises et des services publics. Explication avec notre confrère Freddy Lufulwabo.
Le parti politique qui va obtenir le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale va constituer la majorité parlementaire. Cette majorité va proposer un candidat au poste de Premier ministre au chef de l'État. C'est lui qui va le nommer conformément à l'article 78 de la Constitution. Un problème peut se poser si aucun parti n'a obtenu cette majorité. Dans ce cas, le président de la République va confier à une personnalité de son choix la mission d'identifier un regroupement de partis politiques pouvant constituer la majorité parlementaire. Durée de la mission, 30 jours renouvelables une seule fois. Mais le fait que les partis politiques ont déjà constitué des plateformes politiques pour les élections peut faciliter les choses. Dans la mesure où ces plateformes peuvent s'entendre rapidement pour présenter un candidat Premier ministre. Les autres membres du gouvernement sont nommés par le chef de l'État sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Si l'Assemblée nationale approuve ce programme, elle procède alors à l'investiture du gouvernement.
Voilà, je me tourne directement vers vous, professeur Jacques Njoli. Je rappelle que vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa et à l'Université protestante du Congo. Dans cette analyse de notre confrère Freddy Lufulwabo, on entend bien qu'il peut y avoir des problèmes pour justement constituer, pour dégager un premier ministre s'il n'y a pas une majorité qui a été dégagée. Est-ce que vous êtes... comment peut-on faire pour résoudre de ces problèmes?
L'article 78 d'abord est clair. Donc le président nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci.
C'est-à-dire il choisit parmi les candidats proposés par la majorité.
Si la majorité est claire et il y a un chef de la majorité, c'est-à-dire le parti, il y a un parti par exemple qui aurait la majorité clairement au sein du Parlement, ça ne poserait pas de problème, le président désignerait cette personnalité-là. Mais là encore, ici, il faut dire qu'il s'agit beaucoup plus de la finesse politique que du droit pur. Parce que le texte dit, il choisit au sein de la majorité. Est-ce le chef de la majorité ou une personnalité au sein de la majorité qui peut cohabiter avec lui? Si c'est sa propre majorité, c'est-à-dire le président, ça ne pose pas de problème. Si c'est une autre majorité, cela nous dépose une certaine négociation.
Et en ce cas-là, si ce n'est pas la majorité du président de la République et qu'il trouve que le premier ministre qu'on lui propose par la majorité est conflictuel, est-ce qu'il peut, il a le droit de choisir, d'en choisir un autre dans cette majorité?
Dans l'histoire politique française vers laquelle nous nous sommes inspirés, il est bon dans la culture politique, dans le jeu politique, qu'on choisisse une personne qui peut cohabiter avec le président. Vous savez, à un certain moment, Chirac, je prends les cas français, M. Chirac et M. Balladur, ils étaient de la même majorité. M. Chirac, en tant que chef de la majorité, a fait la première cohabitation et dans la deuxième cohabitation, la troisième cohabitation, n'est-ce pas, il a préféré faire passer M. Balladur, qu'il estimait pouvoir faire. Donc, c'est un jeu politique. Et là encore, c'est plus clair, alors qu'on dit, voilà, lorsque la majorité n'existe pas, le président confie une mission d'information. Cette personne a la mission de chercher à constituer, n'est-ce pas, à dégager une majorité autour d'un programme, autour d'un certain objectif. Donc ce n'est pas gagné, c'est un problème des responsabilités des acteurs politiques pour nous donner un jeu politique apaisé.
Rapidement, professeur Ndjoli, il y a aussi M. Bahati Kieri Derenge Tionor Kivu qui pose la question suivante. Comment sera désigné le Premier ministre au cas où à l'Assemblée nationale il y a 200 députés PPRD et 200 députés MLC? Donc il n'y a pas une majorité.
Non, il y a toujours des combinaisons. On peut mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire le PPRD, l'MLC s'entendent autour d'un programme minimum ou maximum, mais autour d'un programme, autour d'un homme, et ils mettent en place. Ou alors, si on a 200 députés PPRD, 200 députés MLC, mais les 100 autres députés indépendants, on peut avoir un gouvernement PPRD plus indépendant ou MLC plus indépendant. Tout dépend de l'habileté, de la finesse et de la capacité ou de l'intelligence politique, n'est-ce pas, et du chef de l'État, et du Premier ministre ou de l'informateur.
Charles Lukenga, je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'Université pédagogique nationale et historien. Est-ce que dans l'histoire politique de notre pays, il est arrivé qu'on ait des difficultés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, des difficultés pour désigner un Premier ministre?
Bon, je crois que la première difficulté, c'était avec le premier gouvernement, le premier gouvernement Lumumba. Au départ, les Belges étaient un peu réticents à le nommer. Mais finalement, il l'avait nommé. Il n'y a pas eu de problème après.
Si je peux ajouter en termes historiques. Oui. Déjà, avec l'histoire, il y a eu en 60, justement. À un certain moment, c'est Kassavubu qui a été désigné comme informateur. La mission d'information n'a pas marché. Et on a désigné Lumumba comme informateur. Et puis, il est passé à formateur, donc premier ministre. Donc, chacun essaie de voir sa capacité, et puis après un mois, comme il est dit ici, il vient rendre compte, monsieur le président, j'ai trouvé ma majorité, voilà, je peux y aller, parce qu'il ne peut pas prendre le risque d'aller présenter son programme, sachant par ailleurs que au sein de la Chambre, il n'y a pas une majorité.
Comme d'habitude, nous recevons notre conseiller Nadine Foula pour entendre ce que pensent nos auditeurs au sujet de ce thème sur l'élection des députés nationaux. Bonsoir Nadine Foula.
Bonsoir Claude et bonsoir à tous les auditeurs. Nous commençons par Henri qui nous écrit à partir des Bougnas. Il conseille aux députés d'accepter les résultats car nous députons la démocratie tant mystifiée. Surtout nos anciens députés de la Deuxième République doivent comprendre qu'ils ne sont pas héritiers de la députation. Chirac Déboutembou souhaite que le Premier ministre soit un cadre universitaire car il aura un pays vaste à reconstruire. Alain Alubumbashi au Katanga trouve que la CEU a refusé leurs statistiques. Il se demande alors pourquoi a-t-elle peur de proclamer les résultats partiels. Les 12 jours restants sont plus longs que les 16 ans de transition, estime-t-il. Bahati Thierry à Eringeti demande comment sera désigné le Premier ministre au cas où deux partis politiques représentaient la même majorité. Pour Benjamin à Beni au Nord Kivu, il faut prononcer vite le résultat des élections, sinon on risque d'être envahi par les gens qui n'ont pas réussi. Lukusa à Mbujimayi dit: que va-t-il se passer en Mbujimayi où le nombre de votants est inférieur au quotient électoral pendant que l'on sait que Mbujimayi a 11 sièges? Voilà tout pour ce soir.
Voilà, je commence d'abord par vous, monsieur le chef des travaux Lukenga, réaction par rapport à nos auditeurs.
Oui, la première réaction, c'est l'impatience de la population qui veut connaître quand même les résultats. Aujourd'hui, ça fait, je crois, 8 jours. Ils continuent à attendre. Et en ce qui concerne les inquiétudes, je pense que les rapporteurs de la CIP dissipés. Et également, je voulais ajouter un fait à propos de ce que le prof a dit sur la majorité.
Lumumba, quand il a été désigné, mais Lumumba était majoritaire au Parlement. Alors que les Belges ont fait sciemment pour désigner Kazavubu, qui n'avait pas la majorité. Vous voyez ça? Donc c'est un peu différent de ce qui se passe aujourd'hui.
Dans quel sens?
Aujourd'hui, ne sera désigné que celui qui a la majorité selon la loi. Vous voyez ça? Alors qu'à l'époque là, les Belges, sachant que Lumumba avait la majorité, ne l'ont pas désigné d'abord comme informateur. Ils ont commencé par Kazavubu. Donc c'est un peu différent.
Il y a aussi la réaction d'un auditeur qui dit que le Premier ministre devrait être un cadre universitaire. Est-ce que ça nous a toujours réussi dans notre pays d'avoir des cadres comme gouvernants du pays, des cadres universitaires, des professeurs d'université?
Bon, moi, personnellement, je ne pense pas à cela. Que ça soit un homme consciencié, un patriote, celui qui peut travailler pour l'intérêt de la nation, ça suffit.
Voilà. Professeur Jacques Njoli, je me tourne vers vous. Il y a beaucoup d'auditeurs également qui disent que les députés devraient accepter les résultats. Il y a aussi Ambujimaï. Je ne sais pas si cette question s'adresse à vous ou à M. Dieu de Mirimo. Il y a M. Loukous Ambujimaï qui dit que va-t-il se passer Ambujimaï où le nombre de votants est inférieur au quotient électoral pendant que l'on sait qu'Ambujimaï a 11 sièges.
D'abord, il faut dire que Lumumba, l'MNC, a dû constituer un gouvernement en intégrant des alliés, notamment le PESA, Kamitatu et autres. Les CEREA, il y avait le ministre des Affaires étrangères, bon, beaucoup n'étaient pas MNC, hein, il était UNIMO. Okay. Donc, ils ont dû constituer, n'est-ce pas, un gouvernement dit d'union nationale, donc intégrant les autres partis. Et vous vous rappelez que le passage de Kassavubu comme Premier ministre, plutôt comme Président de la République, était sur demande de M. Lumumba, qui avait, n'est-ce pas, cette majorité qu'il a pu constituer avec un certain nombre de partis. Ceci étant, en ce qui concerne l'impatience, je crois que le rapporteur Milimo va expliquer, mais il faut mettre ça sur le compte, n'est-ce pas, de la grandeur du pays. C'est vrai que si on vote à Kisangani, on est pressé pour qu'on donne le résultat. Mais les centres de population de Kisangani doivent voir les résultats qui viennent. Enfin, la CI est mieux placée pour, n'est-ce pas, donner cette réponse. Mais je crois, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est cela.
Voilà. Dieudonné Mirimo, il y a des gens qui disent que pourquoi la CEI a peur de proclamer les résultats. Vous refusez leurs statistiques, vous refusez de proclamer les résultats partiels. Les 12 jours restants sont plus longs que les 16 ans de transition.
Bon, je crois que nous avons déjà invité le peuple à la patience et au calme. Nous avons commencé depuis hier à publier les résultats partiels des présidentielles. On va continuer, le rythme va s'accélérer. Comme je l'ai dit au cours de cette émission, demain certainement il y aura plusieurs circonscriptions qui vont afficher les résultats. Et la patience, parce que nous sommes donné le délai jusqu'au 20 août pour annoncer les résultats provisoires.
Et jusqu'au 4 septembre
pour les législatives nationales. Les gens d'Mbujimaï peuvent s'apaiser, oui. Ils auront droit à leurs 11 sièges, quel que soit le nombre d'électeurs qui se sont rendus aux urnes dans la ville d'Mbujimaï. Et on a refusé les statistiques des personnes. Nous avons rendu publiques nos statistiques à l'issue de l'arrondissement. Si quelqu'un avait à nous les opposer, il avait tout le temps parce que nous les avons annoncés depuis l'année passée.
Pour ce qui concerne Mbujimaï,
rapidement,
c'est-à-dire que si le quotient électoral fixé par au niveau national n'est pas atteint, le quotient électoral est calculé par le nombre de votes, de suffrages exprimés. Et c'est ce nombre de suffrages qui sera divisé, n'est-ce pas, par le nombre de sièges à pourvoir. Donc on aura le 11 députés, même si un député est élu avec 500 voix ou 300 voix.
C'est fini pour ce soir. Merci à nos trois invités, à l'équipe de dialogue entre Congolais, mais aussi à Eddy Marquis qui était à la mise en onde. Cette émission sera rediffusée à 4h45 heures de Kinshasa. Sur Onde-Côte, vous pouvez la suivre chaque jour de 5h à 7h sur 11690 kHz. Et sur Internet, retrouvez cette émission à l'adresse suivante www.radiokapi.net. Au revoir et à demain. I'm